Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Bras de fer, États-Unis, Iran. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a condamné sur son compte Twitter ce mercredi les tirs iraniens contre des bases en Irak utilisées par les Américains. L'OTAN exhorte l'Iran à s'abstenir de toute nouvelle violence, a ajouté le patron de l'Alliance Atlantique. Selon un responsable de l'organisation, aucune victime n'est à déplorer parmi les troupes de l'Alliance chargées de former les forces irakiennes. Pour sa part, le leader du Parlement irakien a condamné aujourd'hui la violation de la souveraineté irakienne après le tir porté rang de 22 missiles sur des bases irakiennes abritant des soldats américains en représailles à l'assassinat par Washington du général iranien Qassem Soleimani vendredi dernier à Bagdad. Mohamed Al-Boursi a souligné le refus absolu par l'Irak de laisser des parties en conflit utiliser le territoire irakien pour régler leurs comptes. Cinq jours après l'élimination du général Qassem Soleimani par les États-Unis, l'Iran a donc riposté ce mercredi en tirant des missiles contre deux bases abritant des soldats américains en Irak. Selon le Pentagone, des missiles ont été lancés depuis l'Iran contre les bases d'Aïn al-Assad et d'Erbil. Des frappes calibrées pour éviter une surenchère de Washington, selon de nombreux experts. Le point avec Jean-Roger Bion.
Ces raids revendiqués par Téhéran marquent un tournant faisant redouter une escalade régionale ou un conflit ouvert, même si dirigeants américains et iraniens ont rapidement semblé vouloir calmer le jeu. Dans un tweet, le président américain Donald Trump a indiqué qu'il ferait une déclaration mercredi matin et laissé entendre que le bilan n'était pas très lourd. L'évaluation des dégâts et des victimes est en cours. Jusqu'ici, tout va bien, a-t-il lancé. De son côté, Mohamed Javad Zarif, chef de la diplomatie iranienne, a affirmé que son pays avait mené et terminé dans la nuit des représailles proportionnées. « Nous ne cherchons pas l'escalade ou la guerre », a-t-il insisté. L'Agence fédérale de l'aviation américaine a interdit aux avions civils américains le survol de l'Irak, de l'Iran et du Golfe. Les gardiens de la révolution iranienne, l'armée idéologique de la République islamique, ont conseillé à Washington de rappeler ses troupes déployées dans la région afin d'éviter de nouvelles pertes et menacer de frapper Israël et des gouvernements alliés de l'Amérique. Ceux-ci interviennent alors que se terminent à peine les funérailles du général Qassem Soleimani, assassiné vendredi à Bagdad avec l'Irakien Abu Mehdi al-Mouhandis, leader des paramilitaires pro-Iran, désormais intégré aux forces de sécurité irakiennes.
Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a qualifié aujourd'hui de nouvel exemple d'escalade les frappes iraniennes sur des bases en Irak utilisées par des troupes de la coalition, y compris des Européens. Quels sont les risques liés à cette montée des tensions entre Téhéran et Washington? Au micro d'Irénée Armanongbo, écoutons le docteur Richard Conley, professeur de sciences politiques à l'Université de Floride.
On ne sait pas en ce moment s'il y a des fatalités ou quelque chose d'autre, mais j'imagine que la Maison Blanche est en train de contempler comment répondre à cette attaque militaire de l'Iran. Et c'est complexe parce que c'est le terrain de l'Irak, pays souverain, et bien sûr maintenant avec les troupes américaines qui se retrouvent là-dedans. Donc, il va falloir attendre la réponse de Trump, le président, et la Maison-Blanche et les conseillers au président pour savoir comment ou si on va répondre à cette attaque.
Et comment voyez-vous l'aboutissement de cette crise quand on sait qu'un troisième pays, l'Irak, est impliqué également dans ça? Ce n'est plus seulement Téhéran, Washington, mais également Bagdad.
Oui, c'est ça le problème. Je pense que c'est très complexe parce que, oui, bien sûr, il y a des missiles qui sont dirigés vers les troupes situées sur les bases en Irak, mais l'Iran a envahi l'espace souverain de l'Irak. Je ne sais pas, il va falloir attendre, je pense, peut-être le lendemain pour regarder comment la Maison-Blanche va répondre, mais je crains que ça va aboutir à quelques frappes militaires de notre côté ici aux États-Unis. faut se demander si ça va escalader jusqu'à un point où il y a vraiment la guerre déclarée ou non déclarée par le Congrès américain, si on se retrouve dans une situation où il y a des troupes qui sont situées contre l'Iran, soit en Irak, soit quelque part d'autre. C'est la pagaille.
Richard Conley, analyste politique de l'Université de Floride, ici aux États-Unis.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique maintenant, confinée en Libye. La Turquie a envoyé 35 soldats en Libye en soutien au GNA, le gouvernement libyen d'union nationale siégeant à Tripoli. Mais ces militaires ne participeront pas au combat, selon le journal turc Hürriyet. La Turquie endossera un rôle de coordination. Les soldats ne combattront pas, a affirmé le président turc Recep Tayyip Erdogan, cité par ce quotidien mercredi. Tripoli est assiégée par les forces du maréchal Khalifa Haftar, soutenues par l'Égypte et les Émirats arabes unis, qui lui fournissent une aide diplomatique et militaire. Ces deux pays sont des rivaux régionaux de la Turquie et d'un autre allié du GNA, le Qatar. Corne de l'Afrique, en Somalie, au moins 4 tués et plus de 10 blessés ce mercredi dans un attentat à Mogadiscio, où une voiture piégée a explosé à proximité du Parlement. La voiture en question se trouvait avec d'autres véhicules à hauteur de barrages routiers le long de la route Maka al-Mukarrama, près de la zone de Saïdka. Les islamistes Chebab affiliés à Al-Qaïda ont revendiqué l'attentat. Dimanche dernier, les Chebab avaient attaqué une base militaire américaine américano-kenyan dans le sud-est du Kenya, près de la frontière de la Somalie, tuant 3 Américains. À Afrique de l'Ouest maintenant, en Guinée, les principaux partis de l'opposition ont confirmé hier leur intention de boycotter les législatives prévues le 16 février. C'était au lendemain d'une nouvelle mobilisation contre la volonté prêtée au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Les détails avec Ekia Badou.
Amadou Salif Kébé, président de la Commission électorale nationale indépendante, a déclaré hier que la CENI a enregistré le dépôt de listes émanant de 29 partis, dont le RPG au pouvoir. Ces partis vont se disputer 76 sur les 114 sièges de l'Assemblée nationale mis en jeu sur des listes nationales qui seront réparties à la proportionnelle. Les sièges restants seront désignés lors de scrutins majoritaires à un seul tour dans les 38 circonscriptions du pays. 14 partis ont inscrit des candidats pour ce scrutin majoritaire selon M. Kébé. Les conditions pour une élection transparente ne sont pas réunies d'après Seloud Alain Diallo, leader de l'opposition. Il confirme le boycott et réclame un fichier électoral assaini, un recensement correct des électeurs et un président de la commission électorale moins partisan. Ces élections, on les empêchera, a-t-il ajouté. Sidya Touré, autre leader de l'opposition, a tenu des propos similaires. L'opposition avait déjà annoncé le 23 décembre qu'elle boycotterait ce scrutin, plusieurs fois reporté, et même qu'elle l'empêcherait sa tenue.
République démocratique du Congo, l'épidémie de rougeole qui sévit dans le pays est la pire au monde, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En un an, la maladie a déjà tué plus de 6000 personnes. L'OMS demande donc 40 millions de dollars supplémentaires pour y faire face, Eddie Sango.
Les 40 millions de dollars supplémentaires sont nécessaires pour un plan de réponse des 6 mois, visant notamment à étendre la vaccination aux enfants âgés des 6 à 14 ans, indique la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Matshidiso Moeti. En 2019, plus de 18 millions d'enfants de moins de 5 ans ont été vaccinés à travers le pays et environ 310 000 cas suspects de rougeole ont été recensés. Selon l'OMS, 25 cas de rougeole concernent les enfants de plus de 5 ans qui sont les plus vulnérables. Outre la rougeole, la RDC lutte contre une épidémie d'Ebola qui a déjà fait 2 233 morts sur 3 390 cas enregistrés d'après les derniers bilans officiels datés du dimanche. Les virus Ebola touchent les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, des régions en proie aux violences en raison de la présence des dizaines de groupes armés locaux et étrangers.
Et pour terminer, au Gabon, l'opposant gabonais Landry Amiang Washington, également de nationalité américaine, qui avait été condamné notamment pour incitation à la révolte et outrage au chef de l'État, a annoncé ce mercredi à l'AFP sa remise en liberté à Libreville après plus de 3 ans en prison. Merci de votre attention.